Le SA15 Magatitude. Toute l'actualité du SA15, le lundi 18h30 avec Fred et Christian.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du SA15 Mag Attitude. Nous sommes ensemble pendant 25 minutes environ pour parler du SA15, seulement du SA15 et rien que du SA15. Toujours hein, mon acolyte depuis chez lui, post-Covid, Christian. Christian, bonsoir.
Bonsoir Fred.
Comment vas-tu ?
Bah écoute, très bien, le SA15 a gagné, donc on est forcément heureux de faire cette émission, donc c'est plus facile d'en parler quand ça gagne, donc très bien.
Ouais, puis c'est tellement rare ces deux dernières années qu'effectivement on est tout heureux. Si tu veux bien, on peut envoyer le sommaire.
Le SA15 Mag Attitude, le sommaire.
Et oui, au sommaire ce soir, nous allons revenir sur cette belle victoire du SA15, même s'il y aura quand même des choses à dire, hein, parce que tout n'a pas été parfait du SA15 face à Suresnes. Le match avait lieu samedi à un horaire inhabituel, hein, puisque et un jour inhabituel, parce que c'était samedi, à 19h. Nous parlerons ensuite, non pas des résultats des jeunes, mais des déplacements qu'ont fait les jeunes, puisqu'ils ont joué. On n'a pas les résultats, mais par contre, on sait ce qu'ils ont fait ce week-end. Et enfin, nous parlerons du prochain match qui arrive et qui va être très important, je pense. Ça va donner le ton un petit peu du championnat et voir ce que cette équipe a dans le ventre, cette équipe du SA15, puisqu'elle se déplace chez le leader incontesté de cette nationale, Valence Romand. Mais on peut lancer tout de suite le débrief du match.
Le SA15 Mag Attitude, le débrief du match.
Christian, nous étions au Stade Chanzy, hein, et nous espérions effectivement voir cette équipe du SA15 après un revers à Chambéry s'imposer à domicile et avec la manière. Et on peut dire, Christian, que ça a plutôt bien débuté. Déjà, il y avait du monde, il y avait une bonne ambiance, plutôt sympa. Il faisait un peu fresqué, mais le SA15 est bien rentré dans son match.
Oui, bien rentré dans son match. C'est vrai que le SA15 était à la chasse de sa troisième victoire de suite à domicile. On rappelle que les Violets avaient battu précédemment Nice et Dax. Donc, on espérait que les Violets fassent la passe de 3 à domicile. Comme tu le dis, ça a bien démarré sur une pénalité de Mathieu Higal au bout de 3 minutes de jeu. Le SA15 mène 3-0, suivi d'un essai. Un essai de Pierre Lafitte qui marque le premier essai du match à la 7e minute. Donc un essai qui ne sera pas transformé par Mathieu Higald. Et donc nous sommes à 8-0 pour le SA15. Derrière, Nakiri marque un essai. Donc on est un essai qui sera transformé par Higald. 8 et 7 qui font 16. On est à 16-0 à la 19e minute, ce qui est très très bien, puisque en plus Olé Avei remarque un essai. Entre temps, il y a une pénalité de Ford, pardon. Donc c'est Suresnes qui ouvre son compteur. Et derrière, donc Olé Avei marque le troisième essai pour le SA15, un essai qui sera suivi d'un essai de Voslo pour Suresnes. Et donc à la mi-temps, Lafitte remet un essai juste après. Et à la mi-temps, donc, le SA15 mène 25-10. J'ai fait un peu tout dans les ordres, mais on a tous les points.
Ouais, on a tous les points, on a surtout tous les essais, 25-10 à la mi-temps. Et surtout, on va dire, moi j'ai trouvé un 30 minutes où le SA15 surdominait cette équipe de Suresnes, notamment Nakiri, hein, qui a bien marqué un essai, mais qui, quelques minutes plus tôt, en avait marqué un également. Malheureusement, il y avait eu un petit en avant au niveau de l'embut et cet essai avait été refusé. Mais le SA15 a ultra dominé cette équipe de Suresnes en première mi-temps. Christian, on se dit à ce moment-là, il ne peut pas se passer grand-chose pour le SA15. Et on va voir qu'en seconde période, ça a été un petit peu plus compliqué, hein, tout de même.
Oui, forcément, 4 essais en une mi-temps, c'est très bien. D'autant plus que Suresnes n'en a marqué qu'un. Donc au final, dès la mi-temps, ouais, le bonus,
déjà le bonus
était acquis. Maintenant, il suffisait déjà de remporter cette victoire et surtout de maintenir ce bonus offensif. Et on voit quand même que ça a plutôt bien démarré la deuxième mi-temps, puisque malgré la pénalité de Ford qui ramène un peu Suresnes à 25-13, c'est Robin Copeland qui marque un nouvel essai pour le SA15, un essai qui est transformé. Et là on se retrouve à 32-13, et donc forcément le bonus offensif est obtenu avec un peu plus d'écart. Et malheureusement en fin de match, il va y avoir un essai collectif de Suresnes à la 61e minute. Donc Suresnes va revenir à 32-18. C'est le dernier essai du match. Un essai partout en deuxième mi-temps. Vu que le bonus était acquis dès la mi-temps, et ben le SA15 s'impose 32-18 contre Suresnes avec notamment une très belle première mi-temps. Et donc, c'est le bonus offensif pour le SA15, le premier de la saison.
Un bonus offensif, 5 essais à 2. On a eu un petit peu peur quand même à la fin parce que Suresnes a joué un petit peu son va-tout et aurait même peut-être mérité même marquer un essai. Mais c'est vrai que cette équipe du SA15 était très largement au-dessus. Alors, ce qu'on a pu constater quand même, c'est que il y a eu des changements faits relativement tôt dans le match. Quelques sorties, notamment de Rubio, de Dugal, a un petit peu désorganisé cette équipe du SA15. Et c'est à partir de ce moment-là que Suresnes a tenté sa chance et finalement n'était pas si loin que ça d'empêcher le SA15 de marquer ce bonus offensif. Christian, quand on analyse un petit peu comme ça à froid, on se dit est-ce que le SA15 a un banc si solide que ça? On voit que sur les fins de match, c'est difficile hein, dès que les titulaires indiscutables rentrent, c'est plus compliqué.
Oui, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce match-là, il est un peu en deux temps. Il y a cette première mi-temps qui est réussie, peut-être la meilleure mi-temps produite par le SA15 depuis le début de saison, peut-être avec le match de Dax qui avait été aussi rondement mené, sauf à la fin. Et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, le SA15 s'est fait peur. Ils s'ont fait peur une première fois contre Dax et en ayant perdu le bonus offensif en fin de match. Et là, le SA15 a failli revivre la même chose contre Suresnes. Finalement, heureusement, plus de peur que de mal, le SA15 empoche le bonus. Alors, à quoi c'est dû ces fins de match compliquées? Peut-être le fait de s'être fait un peu rattraper contre Dax. Peut-être qu'ils ont cette fois voulu, entre guillemets, un peu trop assurer le bonus. Et quand on assure trop, il y a forcément des risques que l'adversaire prenne un peu le dessus. Et puis, peut-être, oui, une entrée des remplaçants ou des finisseurs, comme ils l'appellent sur la feuille de match, peut-être un peu moins tonique que les titulaires. Voilà, en tout cas, ça fait une victoire. C'est important de rebondir. On disait la semaine dernière que sur des blocs de 4 matchs, faire 3 victoires, c'est un minimum à obtenir. Donc là, ils ont déjà obtenu la première victoire, donc c'est plutôt pas mal.
Merci Christian pour ce débrief du match. D'ailleurs, nous étions à la fin de ce match avec un joueur et un entraîneur heureux, Teddy Cardrin et Pierre Lafitte.
On prend 5 points, c'est la première fois depuis le début de l'année. On est satisfait du résultat. Après, comme j'ai dit, on a eu deux visages sur ce match. En première mi-temps, dès qu'on a mis de la vitesse dans nos actions, on a vu que l'équipe de Suresnes était un petit peu dépassée. On arrive à scorer plutôt rapidement. Et on fait une rentrée de deuxième mi-temps qui est un petit peu timide, timorée. Et forcément, après, entre le fait qu'on n'ait plus le ballon, qu'on en perd, je crois, deux sur la touche et la discipline qui se dégrade, on remet une équipe de Suresnes dans le match et on recommence à voir sortir nos vieux démons. Donc après, pas de déception, mais qui est un peu bizarre à la fin parce qu'on sait qu'on n'a pas eu la maîtrise totale du match.
C'est qu'on a le potentiel pour faire autre chose. Hein. C'est une première mi-temps où, en calculant bien, on a 4 occasions de marque nette qu'on met pas au fond. Donc on répète un peu les mêmes choses assez régulièrement. Ce qui encore une fois est très positif, c'est que on a ces occasions de marque. Alors je sais pas si c'est la Charente-Maritime qui est un peu comme ça, avec des équipes qui souhaitent avoir un peu la possession. La ville est mitigée parce qu'on sait de quoi est capable l'équipe. On sait à quel point ils peuvent être concernés dès lors que tout le monde est connecté et joue son rôle. Ce qui me dérange, ces momentum qui deviennent négatifs, c'est notre incapacité en fait à switcher, à retrouver le positif. Et là, c'est ça qui est un peu plus inquiétant, c'est que on a cette capacité d'imposer notre jeu, parce que je crois que ça a été le mot d'ordre pour nous toute la semaine. Imposons notre jeu, assumons-le. Et puis un début de seconde qui n'a plus rien à voir. Mais la peur, c'est qu'on a laissé trop de points de côté pour en laisser partir un de plus. Donc On va le digérer, vous savez comment c'est. On monte en émotion parce qu'on a peur de perdre ce qu'on a réussi à acquérir, mais durement. Les joueurs, ils bossent dur pour y arriver. Le travail qu'on a à faire avec des finishers, des entrants, qui ont toute légitimité de rentrer dans cet effectif-là, mais qui manquent aussi un petit peu de temps de jeu. Donc quand on les fait rentrer, bah, évidemment, il faut qu'ils retrouvent les repères en compétition. Ça fait, là aussi, vous me connaissez sur le déclic. Là aussi, il faut qu'ils prennent le rythme. C'est-à-dire que jusque-là, ils ne l'avaient pas trop. Donc, c'est important qu'ils puissent rentrer. Maintenant, c'est aussi aux mecs qui étaient sur le terrain et qui avaient la maîtrise jusque-là de les aider à basculer. Parce que Pierre le dit très bien à la fin, il a raison. C'est que les 10 premières minutes de cette seconde période, elle appartient à ceux qui ont commencé le match. Pas l'inverse.
C'est pareil, on oscille, quoi. Des fois, on alterne entre le bon et le moins bon. Donc, il faut qu'on arrive à garder cet état d'esprit sur 80 minutes, quoi, du début à la fin, et pas avoir des trous d'air. Il y a le potentiel, ouais, quand on regarde le groupe, on sait très bien que voilà, on est quand même un groupe assez. On va pas se cacher, avec des bons joueurs, et on doit faire beaucoup mieux.
Il faut être lucide, on va s'appuyer sur une base de travail qui est de celle de ces 30-40 premières minutes de cette mi-temps-là, avec quand même vraiment des choses qui ont touché l'excellence. Et de l'autre côté, comprendre ce qui fait qu'on l'a pas fait pendant plus longtemps.
Voilà, ils sont plutôt très très heureux de ce résultat.
Réagissez à l'émission sur Facebook, le SA15 Magattitude.
Alors moi, ce qui m'a beaucoup plu, on a vu un Robin Copeland qui, pour la première fois, habituellement jouait en troisième ligne, était troisième ligne centre, donc numéro 8, jouait seconde ligne. Et moi, j'ai trouvé performant. Ça a été pour moi l'un des hommes de ce match, performant. Il mettait, comme on dit, la tête là où les autres mettraient pas les yeux. J'ai trouvé Copeland très très bon. C'est peut-être la bonne pioche, finalement, de ce repositionnement de ce joueur qui, on le rappelle, a joué quand même à l'Ulster, qui est un gros club, tout le monde connaît, bien sûr. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Christian, mais ça, c'est pour moi un gros point positif, c'est ce repositionnement de Copeland et l'arrivée de Taleboula aussi en troisième ligne, à qui il faudra peut-être un peu de temps, parce que pour le coup, lui qui jouait centre se retrouve numéro 8. Ça a été un peu plus compliqué, mais avec le temps, ça pourrait être payant.
Oui, mais c'est vrai qu'entre Copeland et Taleboula, c'est un peu finalement la découverte de nouveaux postes. Entre Copeland, tu le disais, qui est habitué à la troisième ligne centre, qui se retrouve deuxième ligne. Après, il y a quand même le profil, parce que c'est quand même un grand gabarit. Donc,
ouais, il est véloce. Ouais.
Au niveau des touches, ça peut être pas mal. Et puis, effectivement, il apporte tout son tonus, toute sa tonicité.
Ouais, puis l'expérience aussi.
Ouais, et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est un profil un peu différent de celui de Matt Vai, qui a aussi joué en deuxième et en troisième ligne. Copeland est plus, je pense qu'il est plus mobile, plus tonique, et ça apporte, avec Naboo, par exemple, ça peut être vraiment, un très bon, une très belle combinaison. Et puis par rapport à Taleboula, il a quand même du talent, il a quand même fait des choses dans sa carrière de rugby man. Donc si le staff pense qu'il peut jouer en troisième ligne, faisons confiance au staff. Et puis je pense qu'ils sont beaucoup mieux placés que nous pour commenter ce repositionnement là et puis en espérant qu'il apporte un plus à l'équipe.
Et surtout, on peut le voir, notamment chez les pros, énormément de joueurs qui jouaient centre ont ensuite fait une fin de carrière en numéro 8 plutôt excellente. Je pense à Bastaro là, tout de suite, mais il y en a d'autres. Il y en avait un autre là, qui me venait en tête. Bref, il y a un autre joueur pareil qui avait été repositionné de centre à numéro 8 et souvent ça marche plutôt bien. Et Taleboula, étant très mobile et puissant, il a pris du poids aussi. Ça peut être effectivement une très bonne pioche. Quoi qu'il en soit, le SA15, on s'impose 32-18 face à une équipe de Suresnes que moi j'ai trouvé relativement faible, plus faible que Dax. Après, c'est difficile à dire comme ça sur un match parce que je ne sais pas aussi à quel niveau était le SA15. C'est par rapport à Suresnes, par rapport à Dax, etc. C'est souvent l'adversaire aussi qui te met un peu à défaut, mais j'ai trouvé cette équipe de Suresnes quand même un petit peu en dessous. Il y avait également donc d'autres résultats dans cette journée de National. C'était la huitième journée. Samedi se jouaient 6 matchs. Blagnac recevait Aubenas et c'est Blagnac qui s'impose à domicile 19-9. Dijon recevait Cognac Saint-Jean-d'Angély et la belle surprise, bien, c'est que Cognac Saint-Jean-d'Angély s'est imposé 42-40 à Dijon. Belle performance. Bourgoin s'est imposé également, l'équipe qui fermait la marche, et face à Chambéry. Donc c'est quand même une grosse surprise, hein, puisque Chambéry venait de battre le SA15 à domicile. Bourgoin s'impose 17-15. Ensuite, c'est Tarbes qui s'impose face à Dax 20-18. Valence-Roman, toujours aussi impérial, s'impose à Albi 21-13. Et donc, comme on l'a dit, hein, le SA15 s'impose face à Suresnes à domicile 32-18. Il n'y avait simplement qu'un match dimanche, donc hier, hein, qui avait lieu. Massy recevait Nice, un match qui, sur le papier, paraissait équilibré. Et Massy s'est imposé très largement face à une équipe de Nice qui fait vraiment un début de saison catastrophique. Pire certainement hein, que le SA15, puisque Massy s'est imposé 29-5. On va vous donner le classement tout de suite. Donc, bien sûr, hein, Caracol en tête. Premier, Valence-Roman avec 32 points. Deuxième, suit Massy avec 29 points. Troisième, Chambéry, 25 points. Quatrième, Albi, 23 points. Cinquième, Tarbes, 22 points. Sixième, Blagnac, 20 points. Septième, et donc juste derrière le premier qualifiable, c'est le SA15 avec 19 points. Suit Nice, 8e avec 18 points. Neuvième, Dax, 16 points. Suresnes est 10e avec 14 points. Onzième, Dijon, 12 points. Douzième, Aubenas, 12 points. Cognac Saint-Jean, 13e avec 11 points, donc ils reviennent dans la course. Et enfin, ferme toujours la marque malgré leur victoire, c'est Bourgoin qui est 14e avec 9 petits points. Quand on regarde le classement, Christian, on se dit que finalement, le SA15 a fait une belle opération avec ce bonus offensif, puisque ils sont désormais qu'à 4 points du 4e Albi. Donc, un coup à Valence-Roman serait bienvenu.
Hein. Ah oui, ça serait bienvenu, d'autant plus que personne n'arrive à battre cette équipe de Valence-Roman. Donc, prendre des points où personne n'en prend, finalement, c'est prendre pratiquement des points bonus. Et par rapport au classement, double bonne opération, déjà parce que le SA15 gagne 2 places, et puis seulement, il revient seulement à 4 points d'Albi. Donc au final, ce top 4 qui s'était un peu décroché, on voit qu'avec 2 ou 3 victoires de suite, avec un bonus par-ci, un bonus par-là, on voit que finalement le top 4 n'est pas si inaccessible que ça. Donc c'est bien pour le SA15 maintenant, comme tu le dis, Yann, et puis on en parlera tout à l'heure, j'imagine, il y a une montagne qui se présente face au SA15, et c'est une montagne qu'il faudra gravir, et c'est une montagne compliquée parce que pour l'instant, personne n'arrive trop à embêter cette équipe de Valence-Roman.
Ils ont effectivement qu'une seule défaite pour 8 matchs joués, 7 gagnés et 1 match perdu. Ce qui est à noter également, c'est que le SA15, quand on regarde un petit peu au-dessus, hein, Massy, Chambéry et Tarbes notamment, le SA15 s'est déplacé chez ces équipes-là. Donc, le SA15 recevra Massy, recevra Chambéry, recevra Tarbes. Et ça aura son importance quand même sur les matchs retour pour pouvoir revenir dans le match pour cette remontée en Pro D2.
Oui, par contre, pour compléter ton propos, forcément, la défaite que se traîne un peu comme un boulet le SA15, c'est cette défaite contre Dijon. Quand on voit que Dijon est 11e, de perdre à domicile contre cette équipe-là, c'est un faux pas. Et c'est un faux pas qui, pour l'instant, après 8 journées seulement, compte beaucoup dans le décompte. Parce que c'est vrai que si on rajoute à minimum 3 points contre Dijon, plus le petit point égaré contre Dax, on se rend compte qu'avec 4 points de plus, le SA15 est 4e. Et ouais. Donc, pour l'instant, il y a seulement 8 matchs de jouer, hein, donc ça va un peu s'équilibrer, un peu s'aplanir au fil de la saison. Mais c'est vrai que pour l'instant, cette défaite contre Dijon, c'est un peu le petit boulet qui traîne encore au pied du SA15 pour l'instant.
Ouais. Je dirais même qu'il y a Tarbes aussi, hein, parce que Tarbes, ils doivent jamais perdre. Hein. Mais bon, c'est comme ça. C'est malheureusement, si on peut refaire tous les matchs et les saisons, ça change toutes les saisons. Très bien, on en a terminé avec cette journée de Pro D2. On va pouvoir passer au résultat des jeunes.
Le SA15 Magattitude.
SA15 Magattitude.
Le résultat des jeunes.
Et oui, ça va être très rapide, hein. On va pas vous donner des résultats, mais on va vous compter en fait où jouaient les jeunes ce week-end, hein, puisqu'on n'a pas les résultats. Les M8, les M10 et les M12 jouaient un challenge, le challenge Bellocchi, trophée jamais. C'était à Saint-Junien, et c'était donc samedi dès 9h du matin. Donc ils sont levés tôt pour aller jouer là-bas. Apparemment, ça s'est très très bien passé pour ces équipes. Ils sont plutôt bien amusé. Il y avait également les M14 qui étaient en brassage challenge fédéral. Donc, il y avait les M14A et les M14B. Les M14A jouaient à Saint-Mexan et les M14B jouaient à ma campagne Angoulême. Voilà pour le résultat des jeunes. On va pouvoir passer au prochain match.
Le SA15 Magattitude, le prochain match.
Et ouais, le prochain match, hein, Christian, tu l'annonçais tout à l'heure. C'est une montagne, c'est un roc, c'est un mont. Ils sont pas invaincus, hein, puisqu'ils ont une défaite, mais se dressent devant le SA15, certainement la plus grosse équipe de cette poule de nationale. Ça va être compliqué.
En tout cas, c'est l'équipe qui a réalisé la meilleure entame de championnat. Et bah, là-dessus, il n'y a pas débat. Et c'est vrai que ouais, c'est un gros adversaire. C'est un autre test, hein. Il y avait eu le test à Chambéry. Maintenant, il y a le test à Valence-Roman. C'est vrai que cette équipe de Valence-Roman, à domicile, pour l'instant, elle performe puisque elle en est à que des victoires. Et puis, quand on sait que Cognac a été prendre 58 points là-bas, que Chambéry en a pris 24, bon, court défaite, 21-24, mais bon, ils ont quand même pris 24 points et que Aubenas a pris 45 points et Blagnac en a pris 34. Ça veut dire qu'ils marquent plus de 20 points, au moins plus de 20 points à domicile sur ce début de saison. Donc oui, c'est dire la tâche qu'attend le SA15. Après, en plus, Valence-Roman, ça rappelle des souvenirs, puisqu'on se rappelle que l'an passé, c'était deux équipes qui luttaient pour leur maintien en Pro D2. Finalement, le coup près est tombé pour les deux, mais on se rappelle du match là-bas où on a longtemps cru que le SA15 allait l'emporter avant que l'essai d'Iban Echeverri soit refusé dans le temps additionnel. Gros morceau Valence, c'est le deuxième relégué de Pro D2, et puis bon, bah eux, ils sont les pleins gaz, certainement mis en confiance par leur victoire obtenue à Nice. Ils sont les pleins gaz, et puis ça a pas beaucoup diminué depuis.
C'est même incroyable, hein, parce que, enfin, de mémoire, hein, à chaque fois que le SA15 s'est déplacé à Valence-Roman, bah c'est jamais passé. Ils sont pas revenus avec une victoire, mais à chaque fois, c'était une déception justement de ne prendre qu'un point, puisque il méritait les deux fois de s'imposer et était supérieur à cette équipe de Valence-Roman. Donc moi, je me dis, c'est possible. Le SA15 a en tout cas les armes pour s'imposer à Valence-Roman. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais oui, certes, ils font un super début de saison, mais sur le papier, et si le SA15 joue son va-tout, ils ont toutes leurs chances.
En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ces deux équipes en forme, hein, Valence reste sur 5 victoires de suite, le SA15 reste sur 3 victoires et une défaite. Après, c'est vrai que quand on prend par contre les résultats de Valence à domicile et du SA15 à l'extérieur, voilà, il n'y a pas photo, le SA15 n'a remporté qu'un match à l'extérieur à Cognac et Valence est invaincu, donc le favori, il est tout désigné, c'est Valence. Donc oui. Voilà, il va falloir essayer de faire un meilleur match qu'à Chambéry. De toute façon, il faudra ça pour prétendre à ramener quelque chose de là-bas. Maintenant, voilà, quand si le SA15 vise vraiment le top 4, il faut rattraper les points perdus. Et les points perdus à domicile, notamment contre Dijon, il faut essayer de les récupérer chez un gros. Là, on n'a pas forcément prévu d'aller gagner. Et ce match de Valence, finalement, c'est vraiment le décor idéal pour définitivement lancer la saison. Et puis pour montrer que le SA15 est vraiment redevenu le SA15 entre guillemets et que c'est une équipe ambitieuse qui vise le top 4 du championnat. Donc oui, ça va être compliqué à Valence, mais ils peuvent aller le faire tout simplement.
Ouais, tout à fait. En tout cas, on l'espère, et puis on croise les doigts. Et
juste pour préciser, donc on parlait du match l'an dernier, hein, ça s'était terminé, oui, sur un 25 partout.
Oui.
Avec le SA15 qui finalement avait choisi la pénalité pour égaliser et pas la pénale touche pour essayer d'aller remporter le match. Donc 25 partout. Et le match précédent, ça avait fait une course défaite de 3 points, je crois. 18-15, oui, ou 15-13 ou 15-12.
En menant très largement en première mi-temps.
Ouais, donc c'est toujours des matchs serrés là-bas. Après, c'était un autre contexte. À l'époque, c'était de la Pro D2. Là, ce sera de la nationale. Est-ce que ça va changer? Est-ce que Valence a gardé les mêmes joueurs? Est-ce qu'ils ont beaucoup renouvelé leur effectif? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la mayonnaise a pris dès le départ. Donc Ouais, sur ce match, Valence est l'incontestable favori.
Nous verrons cela, on vous comptera tout ça lundi prochain. En attendant, on vous souhaite une très bonne semaine. Cette émission, bien sûr, se termine. On arrive au bout. On vous souhaite donc une très bonne semaine, un très bon match à regarder du SA15 face à Valence Roman à lundi prochain, même heure, même endroit. Salut.
Le SA15 Magattitude. Toute l'actualité du SA15 le lundi 18h30 avec Fred et Christian.